France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le chaos comme icône, c'est le nom de l'émission que vous allez entendre dans un instant. Une émission qui est l'épisode conclusif d'une série de 4 nuits magnétiques que Jean Dève et Vincent Deyck ont consacrées, en 1994, à la notion d'égarement. L'égarement est son théâtre naturel, le labyrinthe. C'est le travail du peintre, plasticien et poète allemand Kurt Schwitters qui est le fil rouge de cette émission. Kurt Schwitters est son œuvre inclassable, composée à partir de déchets et de détritus. Kurt Schwitters et son mouvement, le MERS, qui se donnait pour projet d'assembler, de coller, de fusionner les résidus de la société industrielle qui prenait les apparences d'un monde en ruine dans les années qui suivirent immédiatement la Première Guerre mondiale en Allemagne. Le chaos comme icône, c'est donc le titre de cette émission de janvier 1994, quatrième et dernier volet d'une série de nuits magnétiques sur le thème de l'égarement.
Nuit magnétique, l'égarement. Quatrième partie, le chaos comme icône. Le matériau est aussi insignifiant que moi-même, écrit Kurt Schwitters. L'essentiel est de donner forme. Roues cassées avec des boîtes d'allumettes, des grilles en fer avec des brosses sans poils, des pneus avec de mystérieux légumes. Tel est l'univers familier de Schwitters qui assemble, collecte, dispose, colle, forme. Jean Harpe raconte « Les poubelles offraient à l'inventeur qu'il était des possibilités illimitées. Sa passion lui faisait ramasser toutes sortes d'objets dans la rue, dans les cendriers et des corbeilles à papier. Il était inutile de retenir cet homme qui voulait crier, créer avec tous les déchets qu'il trouvait et les plier comme des rideaux selon la catastrophe logique de son égarement. Lecture des déchets pour Schwitters. Lecture de l'écorce terrestre avec ses autres plis pour René Thom, l'auteur de Théorie des catastrophes. Quelqu'un qui collectionne les déchets, comme le bouton, le ticket de métro, enfin toutes ces choses trouvées, ramassées dans la rue, entre dans un égarement.
Mais paradoxalement, il entre dans l'égarement des autres, puisqu'il ramasse ce que les autres ont égaré, perdu, abandonné, et privé de place assignée. Donc il entre par cette voie de la collecte, du ramassage, de la collection, donc dans l'égarement des autres. D'une certaine manière, il palpe l'égarement des autres, il se baisse, il s'humilie pour le ramasser. Et bizarrement, il perd un peu le sien, parce que tout ça, il va le ranger quelque part, donc il entre dans une pratique de collectionneur. Il va garer tout ça, toutes ces petites autos, il va les garer dans des tiroirs, sur des parkings mentaux. Donc il se situe entre deux égarements, un qu'il rencontre et un qu'il est susceptible de perdre, qui est le sien, si on considère l'égarement comme une virtualité.
qui serviront.
Haroldo de Campos, est-ce que vous ne seriez pas une sorte d'égaré par nature et par définition, vous ?
En appartenant au tiers-monde, n'est-ce pas, au Brésil, on est par définition les tiers exclus, alors l'égaré par définition. C'est très intéressant de faire la démonstration que. J'ai toujours voyagé, j'ai étudié beaucoup de langues. Récemment, je viens d'étudier l'hébreu pour faire de la traduction des fragments de la Bible pour prouver que Dieu est un poète avant-garde. Alors, Dieu ne peut pas être rétro. Hein? Va de rétro, Satanas est rétro. Dieu est à l'avant-garde. Et Dieu est créateur, n'est-ce pas? Il est un fabre, n'est-ce pas? Les mots qui dit dans la Bible création est traduit dans la Bible grecque par poieo. C'est-à-dire, c'est le même mot de la poésie, alors. C'est ça, alors, les voyages et la multiplicité des langues, ça fait vraiment du labyrinthe à la tour de Babel. Je me garde en São Paulo, qui est une ville labyrinthique et anthropophagique, n'est-ce pas? C'est énorme. Si je me déplace de mon quartier avec une voiture, une heure, je suis dans une autre ville que je ne connais pas, n'est-ce pas? Et les contrastes, évidemment, São Paulo est une ville où on coexiste des Arabes, des Juifs, des Chinois, des Japonais. La seconde colonie japonaise, la première colonie japonaise après le Japon, encore plus grande qu'aux États-Unis. Et alors, des Italiens, des Français, des Allemands, tout le temps. Et c'est vraiment une ville labyrinthe. D'un autre côté, cette idée très chère aux Sud-Américains du labyrinthe borgésien, n'est-ce pas, qui est un peu métaphysique, mental, qu'on peut les trouver là, dans cette exposition-là, dans Schwitters, par exemple. N'est-ce pas?
Teile seiner Sonate mit Urlaut.
Marc Dachy, nous entendons Kurt Schwitters qui a dit « Je crie avec des ordures ». Alors, est-ce que pour lui, tout commence par le déchet ?
Oui, pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas, oui. C'est quelqu'un qui est très influencé par l'art moderne, par le cubisme en particulier, et tout d'un coup, quand Berlin est dans les décombres politiques et les décombres réels, dans l'œuvre, le principal protagoniste de l'œuvre devient l'objet. D'ailleurs, comme vous l'entendez ici en arrière-fond, aussi l'objet sonore. Mais c'est vrai que c'est ce que Brian Geiss, il m'appelait du garbage heart, c'est-à-dire qu'il ramassait les choses et il les assemblait avec beaucoup de rigueur et beaucoup de liberté, et qu'au fond, c'est sans doute le premier artiste à avoir travaillé avec du matériau de rebut.
Qu'est-ce qui l'a conduit à s'intéresser aux déchets ? On va quitter peut-être la Ourte Sonate.
C'est délicat de répondre à sa place, mais on peut penser que dans le climat d'après-guerre, chez lui, en tout cas dans la totalité de son œuvre, il y a toujours un rapport à la nostalgie, à la perte. Et d'ailleurs, l'œuvre entière de Schwitter, c'est sa vie entière marquée par l'exil, par la perte des êtres chers, par son décès prématuré lui-même. D'ailleurs, est un peu marqué par cette dimension de nostalgie. Il y a une espèce de coïncidence. Comment il est amené lui-même à utiliser le déchet, je pense que, en tant que peintre, il a d'abord une grande émotion devant la beauté d'un matériau pur et la possibilité de l'épanouir, de lui donner toute une nouvelle noblesse en tant que couleur, en tant que papier, en tant que profondeur. Par exemple, il aimait beaucoup les papiers buvards aussi, ou les tickets de métro, ou un morceau de bois, ou des roues de bicyclette, ou des morceaux de ferraille. Donc il y avait chez lui d'abord une passion très, très enfantine, très ludique pour le tout matériau en tant que tel, et pour la possibilité ensuite de l'organiser, mais je vous le disais tout à l'heure, avec beaucoup de rigueur, avec beaucoup de sensibilité.
Wittgenstein réglait ses promenades sur le réseau de certains égouts.
C'est-à-dire qu'il utilisait le réseau, le fameux réseau du troisième homme, hein, le fameux réseau des égouts de Vienne, pour s'orienter dans la ville. Oui, bon, c'est un jeu avec deux plans. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il y a un égarement à la surface qui est commandé par un ordre terrible en dessous. Peut-être que ça pose d'ailleurs la question de l'instinct. La question de l'égarement.
Dans un papier journal, il vous trouvera un caractère typographique plus particulièrement, iconographiquement passionnant et excitant. Et donc, comme vous savez, d'ailleurs, tout son système Merz est basé à partir d'un petit mot qu'il a trouvé dans un journal en découpant un collage. Le mot Commerzbank, il a découpé le mot Merz dedans.
Que veut dire Merz ?
Alors Merz, alors c'est moi, ça me fait toujours penser à Merz Cunningham. Si on devait traduire littéralement dans le mot Commerzbank la syllabe Merz qu'il y a découpée, en français ça ferait banque de commerce. Et alors merveilleusement, nous retombons sur le prénom du chorégraphe Merz Cunningham. Donc Merz, ça veut dire Merz. C'est important que ce soit une syllabe parce que c'est une coupure.
Cette syllabe est aussi une signature. Il signera Merz.
C'est un point de suture, si on veut, et c'est sa signature définitive, puisqu'il y a la revue Merz, il y a le Merzbau, il y a le Merzbune, il y a le Merzeichnung pour le dessin. Oui, c'est son label définitif, comme pour les dadaïstes, Dada et le...
Alors, nous allons entrer dans le Merzbau qui a été reconstitué, et qui est une pure merveille, finalement, qui est une sorte de sculpture habitable et habitée, mais qui correspond peut-être à un nouveau rapport à la palette.
Oui, on sait par le fils de Schwitters que Schwitters a conçu l'idée du Merzbau à partir du moment où il avait un problème de relation entre ses petites sculptures et ses propres tableaux qu'il mettait au mur. Et donc le Merzbau est littéralement une création intermédiaire entre la sculpture et la peinture. Effectivement, c'est un prolongement de sa peinture.
Nous entrons ?
On entre.
Est-ce que vous avez vécu l'égarement aussi bien dans la philosophie que dans les mathématiques au moment où vous avez commencé à découvrir la théorie des catastrophes ?
Je n'ai pas eu du tout la sensation d'égarement quand j'ai trouvé la théorie des catastrophes. Plus exactement, Il y a eu une certaine surprise qui était de caractère technique, mais ça n'a pas été vraiment quelque chose comme une perte de sensation, de localisation. J'avais conscience d'avoir en quelque sorte pénétré dans un univers neuf, mais qui me paraissait pas tellement surprenant par rapport à l'univers que je connaissais auparavant.
Vous étiez perdu dans la philosophie ?
Dans la philosophie, il y a évidemment beaucoup d'occasions de se perdre. Mais j'ai la nature ainsi faite que quand quelque chose ne me paraît pas aisément compréhensible ou ne m'attire pas directement, en général, je le rejette.
Et sur quoi repose l'idée des catastrophes ?
Ah, mais l'idée de catastrophe est une idée qui n'est pas associée à l'égarement. C'est une idée qui est, au contraire, qui fait appel aux éléments de localisation, aux éléments de repérage dans une situation. La grande idée, l'idée de base de la théorie des catastrophes, c'est essentiellement que dans la nature, ce qui compte, c'est le phénomène. Or, le phénomène, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui est saillant, quelque chose qui se distingue de son fond. Or, par essence, quelque chose qui se distingue de son fond ne peut pas être égarant. C'est un mode d'ancrage dans la réalité. Ne croyez-vous pas ?
C'est un peu comme les parois d'un labyrinthe. Les parois visibles.
Oui, là vous me direz évidemment que Thésée dans son labyrinthe a dû franchir beaucoup de coins et de recoins et d'angles droits et que ces angles droits, bien que saillants, ne l'ont pas beaucoup aidé. Mais enfin finalement, il s'en est sorti, ce qui était peut-être l'essentiel. Mais l'accident formel peut servir en effet à construire des labyrinthes, j'en suis d'accord. Mais en eux-mêmes, ils ne sont pas des sources d'égarement. S'ils sont sources d'égarement, c'est parce que parfois ils sont trop nombreux, ils se superposent les uns aux autres, on les confond entre eux, etc. La confusion des indices, effectivement, c'est une source d'égarement.
Est-ce que la profusion des mots dans le langage ou des nombres en mathématiques n'élève pas une sorte de paroi d'aveuglement, de cécité, à trop voir ?
Je ne pense pas. Il peut y avoir une sensation d'égarement plutôt dans le domaine littéraire, dans le domaine de l'expression. Mais en mathématiques, on peut se trouver en face de structures extraordinairement compliquées, ça c'est exact. Mais en général, ces structures compliquées ont quand même, je dirais, un processus générateur. On peut se raccrocher au processus générateur pour essayer de les vivre comme une genèse. Et dans la mesure où on vit la genèse de la structure, on échappe à l'égarement. Alors on peut quelquefois succomber sous l'excès des données. Et ça, je vais irriter peut-être les biologistes qui m'entendent, je n'hésiterai pas à dire que quand vous regardez la longueur du génome humain, je vous admire beaucoup si vous n'êtes pas quelque peu égaré, sinon embarrassé. Embarrassé, sinon égaré.
Essayons quand même de la décrire, cette œuvre, avant d'y entrer. Tout d'abord, est-ce une œuvre ? Est-ce encore une œuvre ?
Ah, c'est une question très délicate que vous posez là. C'est une reconstitution, mais Schwitters l'avait construit, édifié dans son propre logement, sa propre maison à Hanovre, dont il était propriétaire. Et il a été reconstruit bien après la mort de Kurt Schwitters, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années. Schwitters est mort en 1948. Très difficile de savoir quel statut lui aurait donné Schwitters s'il avait vécu plus longtemps. Ce Merzbau a été détruit lors des bombardements alliés sur l'Allemagne, puisque le Merzbau était construit à Hanovre.
Nous entrons dans le Merzbau.
Oui, les sons changent.
C'est au fond une sorte d'atelier, éventuellement.
Schwitters parlait toujours de la nécessité de construire les œuvres d'art en suivant les formules de la nature. Il parle des cristaux de neige, des arbres. Ici, je pense que c'est organique aussi. C'est son côté chant d'oiseau, comme on l'a entendu dans l'Oursonate, parce que c'est quelqu'un qui travaille à partir du déchet, mais c'est aussi quelqu'un qui suit le rythme de la nature. Ici, il y a un côté concave, convexe, qui me semble important dans le cubique.
C'est une sorte d'igloo, de caverne. D'igloo,
c'est de la blancheur, ce sont des pointes, ce sont des fuselages, ce sont des cathédrales. Il y a une cathédrale de la misère érotique, il y a une caverne d'or. Il y a la fenêtre qui donne sur le jardin. Et puis il y a la... Même ici à la Biennale, on a dû détruire le plafond initialement prévu pour l'ensemble des autres salles et monter plus haut, comme Schwitters l'a fait dans son propre immeuble, en demandant à ses locataires du haut de partir.
Comment est-ce qu'un artiste comme Schwitters pouvait vivre dans un tel endroit? Est-ce que c'est un lieu de réflexion? Est-ce que c'est un lieu de travail concret? Est-ce que c'est une sorte de palette pour ses tableaux construction?
Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la coquille de l'escargot Schwitters, parce que pendant toute sa vie, il a eu besoin d'en refaire un chaque fois qu'il s'est déplacé. Au fur et à mesure de ses exils, il a dû quitter Hanovre, il s'est installé en Norvège, puis les troupes allemandes sont entrées en Norvège, il a dû s'installer en Grande-Bretagne. Et chaque fois, il a reconstitué un petit Merzbau. Donc, la question n'est pas de savoir comment il a pu vivre dedans, je crois qu'il ne pouvait pas vivre sans.
C'est une forme d'égarement pour vous? Est-ce que art dégénéré pourrait rimer avec art égaré?
Oui, bien sûr, j'espère bien que ça rime. Et plus que ça... Je crois que les expositions d'art dégénéré ont été une des plus belles expositions qu'on ait jamais montées. Malheureusement, elles étaient montées dans un esprit un peu suspect, bien entendu. Mais oui, c'est un égarement vers les cieux. Il y a quelque chose chez Schwitters de mystique aussi dans cette œuvre. On peut pas le nier. Vous savez que ça fait penser à certaines cathédrales ou à certains plafonds de l'opéra de Berlin fait par Poulzig, par exemple. Et alors aussi, je pense aussi à des stalagmites et à des stalactites. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette correspondance d'éléments constructivistes du morceau de bois parfaitement découpé, de l'angle cubique. Enfin, et en même temps, il y a cette volonté, une nouvelle fois, de suivre un élément naturel. Il y a quelque chose de la grotte en général, de la blancheur de la neige, de la relique aussi. Donc, vous voyez, c'est plein
de... quand même fait pour l'homme. C'est-à-dire qu'il peut s'attabler, il peut s'accouder, il peut y écrire, il peut travailler.
Oui, il y a des petits escaliers, il y a des alvéoles. Il y a un escalier, il y en a plusieurs, d'ailleurs il y en a un là.
Un escalier qui monte où?
Il monte. Il tourne. Mais tout à fait au rythme. Tous les effets rythmiques font évidemment penser à tout ce qu'il y a à la fois de rigoureux dans les collages de Schwitters, mais aussi dans... je trouve que c'est très évocateur de la typographie, par exemple, du rythme typographique de la sonate que nous entendons tout à l'heure. C'est toute une mise en scène, c'est tout un espace en soi.
Vous parlez aussi d'une métrique sur une surface. Et est-ce que, justement, cette métrique ne permet pas de ne pas s'égarer?
Ah oui, là je fais allusion à une autre phénomène. C'est le problème de l'égarement au sens du voyageur, du promeneur qui s'égare dans une forêt ou qui s'égare dans un terrain qu'il ne connaît pas. Alors là, je reconnais volontiers que c'est une situation où je me suis déjà trouvé, mais jamais gravement, je dois dire. Je me suis parfois égaré, c'est exact. Alors, on peut faire une certaine théorie des moyens de sortir de l'égarement. Et ces moyens reposent sur une analyse de l'environnement qui est fondée sur une analyse rationnelle des indices, un peu comme un détective, c'est pas autre chose, mais dans mon cas, je dirais, l'analyse rationnelle des indices est fondée sur une connaissance de la dynamique génératrice des indices, ce qui permet d'en tirer des conséquences en général valables sur la structure de l'environnement. Je vais peut-être entrer dans plus de détails, parce que c'est une situation auquel tout un chacun peut parfois se trouver. Il s'agit de quelqu'un qui est perdu dans une montagne, dans un paysage montagneux, qu'il ne connaît pas bien. Alors, il peut à tout moment se raccrocher quand même à quelque chose de précis, le relief. Le relief, c'est quelque chose qu'on peut, si on dispose d'une carte où sont tracées les lignes de niveau, on peut, à l'aide de la vision qu'on a de l'environnement, on peut chercher à se localiser sur la carte. C'est clair. Et les éléments fondamentaux pour ça, ce sont essentiellement les cours d'eau. Un cours d'eau occupe un fond de vallée, comme chacun sait, descend un fond de vallée. Et si on est sur un paysage où on peut analyser le relief, on peut s'efforcer de savoir dans quelle vallée on se trouve. C'est par là que commence la sortie de l'égarement, trouver la vallée où l'on se trouve. Ça ne pose pas de grandes difficultés lorsque la vallée et a suffisamment d'éléments particuliers, par exemple des localités, des routes, des lignes de chemin de fer, des choses comme ça, on arrive assez facilement à se localiser sur une carte. La chose est plus compliquée quand il n'y a pas d'indices évidents, et c'est dans une région qu'on ne connaît pas, ou pour laquelle on n'a que la carte à sa disposition. Alors là, il faut raisonner un peu plus abstraitement, et regardez comment se comportent les courbes de niveau. Les courbes de niveau, c'est un réseau de courbes sur la carte. Alors, ce réseau de courbes a trois types de points singuliers. C'est un théorème général, quand on est dans l'espace à n dimensions, les fonctions ont en général n plus un type de points singuliers. Ce n'est pas très utile pour n plus grand que 3, mais enfin, c'est bon à connaître en général. Eh bien, sur l'écorce terrestre, n'est-ce pas, qui est de dimension 2, les courbes de niveau ont trois types de points singuliers qui sont réciproquement les minima, qui sont les fonds, les maxima, qui sont les sommets là, de l'altitude, et puis les points col, qui sont des points où, comme on dit, la différentielle de la fonction est nulle, c'est-à-dire elle ne monte ni ne descend, donc elle est nulle. Et il y a une direction où la fonction est un minimum, c'est la ligne, ce qu'on appelle, il y a une courbe qui passe par ce point s'appelle un point col, et par le point col, il passe deux courbes remarquables, la ligne de crête, qui est le lieu, si j'ose dire, transversaux des maxima, des locaux de l'altitude, et puis la ligne d'écoulement des eaux, la plus rapide, qui s'appelle la ligne de Thalweg, qui passe par le col. Et il y a évidemment deux Thalweg de chaque côté. C'est clair?
que je trouve que le labyrinthe et l'idée de la bibliothèque sont deux différentes images qui se recouvrent chez Borges, n'est-ce pas? C'est la bibliothèque énorme, infinie, le labyrinthe comme égarement à l'infini, parce que dans le labyrinthe, on ne peut jamais trouver, on ne peut jamais être sûr de trouver une sortie, n'est-ce pas? Et Borges, il était tout le temps là, dans ce labyrinthe intellectuel à lui, n'est-ce pas? Et ses livres sont déjà des mini-labyrinthes, n'est-ce pas? Les racontes, le récit Aleph, par exemple, c'est labyrinthique, c'est un point déterminé par l'intermédiaire duquel on peut regarder tout l'univers, n'est-ce pas? C'est une idée kabbalistique, n'est-ce pas?
Kette B B O
Mardashi, comment est-ce que Kurt Schwitters vit cette expérience du déchet? Comment est-ce qu'un artiste peut vivre cela dans le quotidien?
Oh, il y a plein d'anecdotes qui traînent. Man Ray a laissé un témoignage suivant lequel il avait une sacoche qui était toujours pleine d'ordures, qu'il ramassait au fur et à mesure. Et Naum Gabo a dit qu'il avait toujours l'œil, que si vous promeniez avec lui le long d'un chemin, il discernait à 10 mètres un bout de papier. Et alors il avait des valises chez lui où il accumulait des tas d'éléments et il les utilisait très exactement le moment venu, comme il le voulait, avec une justesse absolue. Il y a de très beaux témoignages à Harp aussi sur la façon dont Harp jetant un morceau de papier par terre en travaillant avec Schwitters. Schwitters le récupère, le retourne le papier, le découpe, ajoute un clou et il dit voilà, c'est comme ça, et il fait un collage parfait. Et Harp dit que Schwitters était quelqu'un qui était capable de prendre comme au coussail une poignée de pigments et de la jeter en l'air et d'avoir l'effet immédiat parfait. Et ça, c'est ce qu'on sent effectivement chez Schwitters, c'est dans ce déchet une... Enfin, je crois que c'est de la rédemption, non? C'est dans de la résurrection permanente, c'est ramener la brebis égarée?
C'est quelqu'un qui est du côté du déchet ou du côté de la syllabe, du mot? Parce que lui aussi déconstruit le mot, le vers.
Eh bien, c'est ça qui est passionnant, je pense que c'est la même chose en vérité, donc la syllabe apparemment découpée dans le mot Commerzbank ne devrait n'être qu'un déchet, et à partir de cette pierre, il bâtira son église, sa cathédrale de la misère érotique, comme il dit dans le Merzbank. Donc, à ceux qui ont cru qu'on ne pouvait faire de poèmes qu'à partir des mots, Schwitters a répondu non seulement par son activité poétique très importante, ce qu'il appelle la consequente Dichtung, c'est-à-dire la poésie élémentaire, mais aussi donc la sonate de son primitif que nous écoutions tout à l'heure. Mais donc pour lui, l'élément principal de la poésie, c'est la lettre. Et donc, par exemple, la lettre qui pourrait être considérée comme une unité la plus petite unité possible utilisable, et il en fait lui un tremplin, puisque c'est à partir de quelques lettres du poème affiche de Raoul Haussmann en 1918 qu'il commence à chanter quelques lettres et à les rythmer et à construire, je crois qu'il met 12 ans à construire la partition complète de la sonate de son primitif. Donc pour Schwitters, il n'y a pas de déchet qui ne soit utilisable, et au contraire, c'est quelqu'un qui est passionné par l'épanouissement possible de tout matériau, aussi infime soit-il.
Dans la poésie concrète, on a essayé de faire des labyrinthes, parce que le labyrinthe est une tradition baroque. les auteurs baroques, ils faisaient des labyrinthes déjà. Dans la poésie concrète, par exemple, mon frère Augusto, il a écrit un poème sur les hasards, n'est-ce pas? Et ce poème-là a une possibilité de changement, n'est-ce pas, de lettres, qui fait un peu le jeu du labyrinthe, n'est-ce pas? Jusqu'à à qui on arrive du chaos à l'événement, au contrôle du hasard, comme pensait Mallarmé, n'est-ce pas, les coups d'idée. C'est-à-dire, c'est le labyrinthe qui se concentre dans une sorte de monade, n'est-ce pas? Ça, c'est un poème concret, une définition possible.
Qu'est-ce qui vous a poussé à étudier le sol, la surface?
Mais je suis un habitant de l'écorce terrestre, c'est tout à fait normal de regarder comment elle se comporte. C'est un grand livre, la surface terrestre, et l'un des meilleurs qu'on puisse consulter. Mais il faut savoir un peu l'interpréter, moi aussi, comme tout bon livre. Bon, alors je reviens. Donc, il y a trois types de points. Le minima d'altitude, qui est là, un creux, qui est en général occupé par un lac. C'est le fond du lac, le fond de l'étang, etc. Il y a les points cols, où on passe d'une vallée dans une autre à travers une chaîne de montagnes. Et puis, il y a les sommets. Eh bien, contrairement aux apparences de ces trois types de singularité, c'est le sommet qui est le plus dangereux. Alors évidemment, quand on est un petit peu alpiniste, on adore aller vers le point le plus haut. C'est la règle du jeu. Mais si vous êtes un promeneur banal, vous pouvez quand même rencontrer des sommets qui sont assez doux, assez plats. Et les sommets sont extrêmement trompeurs. Parce que quand on arrive sur un sommet et qu'on veut redescendre dans une vallée, il faut au sommet savoir où part la vallée qu'on cherche. Et les limites entre les embryons de vallée, si j'ose dire, qui entaillent le sommet, sont souvent extrêmement difficiles à déceler. Il y a même une théorie mathématique qui explique ça très bien, mais je ne vais pas vous la présenter. Enfin, ça se présente comme des corridors très, très courbés qui viennent s'approcher du sommet. Et si on ne trouve pas le bon corridor courbé, et si on ne fait pas la bonne courbe, on peut très facilement échouer dans un vallon qui ne vous intéresse pas et qui, au contraire, vous éloignera de votre but. Donc, les sommets sont trompeurs. Je ne sais pas si on peut tirer de cette constance une morale en politique. Je ne serais pas éloigné de le croire que c'est vrai aussi en politique. On peut très bien se tromper de sommet quand il s'agit de redescendre.
Aussi dans votre livre que l'infini est angoissant. Et moi, quand le mot infini me fait penser au mot égarement aussi.
Ah, ben oui, c'est évident que l'infini est angoissant. Oui, oui. C'est pas seulement angoissant, mais ça pose le fait que, si, en un certain sens, toutes les fois qu'on est en face de l'infini, eh ben, on prend conscience de sa mortalité. Ne serait-ce que ça, c'est une circonstance qui devrait vous empêcher de considérer l'infini. Wittgenstein a écrit là-dessus des pages qui font sourire les mathématiciens, mais en un certain sens, il n'a pas tout à fait tort. Vous savez que un nombre réel ordinaire, le plus banal, c'est un nombre qui s'écrit avec une infinité de décimales. Donc on ne peut pas comprendre ce que c'est qu'un nombre ordinaire si on n'a pas réellement conçu cette suite infinie de décimales. Et comme le disait Wittgenstein dans sa deuxième période, comme on dit, on ne vit jamais assez longtemps pour écrire une infinité de décimales. Donc là aussi, il y a des concepts mathématiques qui effectivement peuvent prêter à l'égarement. L'infini existe évidemment en mathématiques, mais on a des moyens pour le dompter. Il y a toute la théorie de la convergence des fonctions, la convergence des suites, etc. Ce sont des moyens qui permettent de dompter l'infini et finalement de le réduire à une espèce d'entité finie, manipulable. Donc ce n'est pas une source d'égarement. Je me suis toujours opposé aux théoriciens du chaos. Et j'ai l'impression que vous en êtes, monsieur, dans la mesure où vous préconisez l'égarement.
L'égaré est quelqu'un qui n'est pas nécessairement conscient de la situation dans laquelle il se trouve, de l'égarement dans lequel il est. L'égaré est précisément quelqu'un dont on dit que, faisant fausse route, il est persuadé d'être quand même sur un chemin. En sorte que l'égaré n'est pas forcément angoissé. Je pense que l'angoissé est vraisemblablement tenté par l'égarement. L'angoissé, dans la mesure où il se sent enfermé dans son angoisse, peut éprouver la tentation de l'égarement, tout en se doutant vraisemblablement, parce que le rapport à l'angoisse et le rapport précisément à cette clôture est ambigu, qu'il sera mal aussi dans l'égarement. C'est peut-être le malheur de l'angoissé, c'est qu'il est mal dans son angoisse et qu'il sera mal aussi dans l'égarement.
Je pense que l'égarement ne peut être qu'un phénomène en psychisme normal, ça ne peut être qu'un phénomène transitoire et qui doit cesser le plus rapidement possible. Du moins l'égarement dont on est conscient. Il y a des égarements dont on n'est pas conscient, et alors ça, c'est bien pire, n'est-ce pas? Quand on n'a pas conscience de ces égarements, c'est le stade ultérieur. C'est un peu ce qui m'arrive.
Qu'est-ce que c'est que la fugue, hein? La fugue, c'est peut-être un égarement contrôlé, c'est-à-dire que contrôlé par ce qui vient avant. Donc ça ressemble à un égarement, ça s'ouvre, de nouveaux thèmes apparaissent, de nouveaux motifs apparaissent, ils sont repris, ils se poussent les uns les autres, ils s'organisent. Le retour n'est pas forcément attendu, mais ce qu'on attend est de l'ordre du retour. Et c'est peut-être là que se joue justement la différence entre l'égarement et l'égaré. Peut-être que l'égarement, c'est plus du côté de la composition, de l'organisation, d'une espèce donc de maîtrise, hein, en l'espèce par l'écriture, mais donc c'est plus du côté de la fugue aussi, comme architecture voulue et exempte de folie. Et donc c'est ce qui distingue cette référence, si vous voulez, à la fugue et à l'écriture en fugue, c'est peut-être ce qui distingue l'égarement de ce qui est proprement égaré, c'est-à-dire d'une certaine manière inclassable. Même si il y a de grands égarés dans la tradition, dans la culture, et si les égarés finissent quand même par arriver quelque part.
Vous ne trouvez pas que le fait d'être dans une œuvre comme celle-ci, le Merzbow, a quelque chose de religieux? C'est un peu comme si on entrait à l'intérieur d'une icône, d'un déchet iconique, si je puis dire.
Oui, je pense qu'il y a chez Schwitters un sentiment très délicat et assez souvent tu de son rapport à Dieu. Il y a quelque chose de la... D'ailleurs, lui-même n'a pas hésité à utiliser... Certes, en les opposant avec humour les termes de cathédrale de la misère érotique, je crois qu'il posait bien là d'ailleurs un des problèmes là de l'Église, mais oui, cathédrale igloo, fougère blanche, avec des formes industrielles aussi, la demi-hélice qu'il affectionnait tant. Léger Duchamp en parlait de la beauté des hélices quand ils allaient ensemble voir des expositions au Bourget. C'est l'esthétique industrielle. C'est... Il y a une très belle photo de Schwitters dans son atelier que personne ne connaît. Et il y a au milieu de l'atelier un crucifix. Donc ces connotations religieuses sont très présentes. Mais enfin, l'enjeu tout de même majeur ici, c'est la possibilité de reconstruire son espace propre, une architecture autonome, ça s'inscrit quand même plutôt dans le combat de l'avant-garde, bien entendu.
C'est un peu comme si on était à l'intérieur d'un cerveau, non, d'un imaginaire à l'état pur.
Oui, il y a ce côté circonvolution aussi, oui. Et moi, ce qui me frappe, c'est le côté à la fois concave et convexe de l'ensemble, et le côté, oui, à la fois souterrain et cathédral.
Lacan avait l'habitude de dire des fous, et des vraiment des plus fous, des plus délirants, des plus dingues, ils sont normaux. Si vous revenez à l'étymologie de ce mot normal, hein, qui est le mot grec norma, c'est-à-dire l'équerre, c'est-à-dire l'angle de 90 degrés, vous apercevez ceci, c'est qu'effectivement la position d'une droite par rapport à une autre, dans son angulation, est quelque chose qui se retourne. Si vous faites faire une rotation de 90 degrés à deux droites normales, vous retrouvez dans la position initiale. C'est-à-dire que c'est la position normale est la seule qui ne vous laisse absolument aucun degré de liberté d'un côté ou de l'autre. Dans la manière dont ces deux éléments sont en rapport l'un avec l'autre. Aucun degré de liberté possible. Alors que si vous êtes à 92 degrés et 35 minutes, hein, si vous faites faire un demi-tour à l'ensemble, vous allez trouver quelque chose où il y a eu un mouvement. Là, pas de mouvement du tout. C'est-à-dire que le normal, c'est celui qui est soumis absolument sans la moindre possibilité de jeu, à la structure.
La recherche du son a quelque chose de l'égarement, par exemple la recherche d'un son primitif ou d'un son jamais capté par l'homme. Est-ce que ça a quelque chose de surhumain? C'est une façon de défier les dieux, par exemple.
Oui. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les sons qu'on connaît beaucoup, enfin quoi, bon, quotidiens ou des sons, mais qui ne sont pas à leur place. C'est-à-dire que, oui, c'est que le repère c'est, change, quoi. Par exemple, ce qui est d'habitude loin, attendu loin, le mettre en premier plan, verser le plan, premier plan, très loin. Oui, on se perd un peu là, parce qu'on ne sait plus du tout, on perd les repères, quoi, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Par exemple, si là où on parle, si ma voix était vraiment au fond, loin, et que les oiseaux, ou je sais pas quoi, étaient vraiment très très près, on m'attendrait au fond. Ça crée une espèce de surprise. Bon, mais après, il faut travailler pour rendre les choses. Mais c'est pas non plus un but. Il faut pas chercher à se perdre, à mon avis. De temps en temps, ça vient, parce qu'on se laisse aller plus que d'autres fois. Quoi.
Vous avez employé tout à l'heure le mot de chaos.
Oui.
Vous savez que certains opposent chaos et logos.
Oui.
Et ceux qui sont dans le logos, en général, ont très très peur du chaos. Ça les effraie, ça les angoisse.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir à partir de quel moment il y a un discours ou pas, quoi. C'est-à-dire à partir de quel moment on peut construire. Il y a construction, qui est langage, quoi. C'est-à-dire à partir de quel moment il y a musique. Et à partir de quel moment on dit non, c'est plus... L'organisation est telle que on n'arrive plus à saisir un langage. Donc ça c'est très intéressant pour moi parce que c'est dans ce que je fais parce que je cherche ça justement, je cherche cette marge là où on se dit ben non c'est pas c'est des fois on attend quelqu'un qui tape sur des cailloux parce qu'il travaille par exemple, il casse des cailloux bon. Où il travaille sur du bois ou quoi. Et le rythme de ce qu'il fait pourrait être un langage. Si on l'attend autrement que qu'on travaille. Quoi. Il y a peu de choses qui ne sont pas intéressantes si on les écoute bien. Si on les écoute avec cette volonté de construire soi-même à l'intérieur. Une écoute qui fait discours, quoi, qui fait.
Marc Dachy, nous sommes au fond dans l'atelier de Kurt Schütters, dans un Merzbau. Est-ce que vous pensez qu'à partir des déchets dont il pouvait s'entourer, nous pourrions ensemble recréer l'imaginaire ou les obsessions de Schütters?
C'est dans le rythme et dans la façon dont il utilise le déchet, dont il l'organise, je pense qu'on peut tirer un enseignement de son obsession. Si on devait parler d'obsession, on utilise un terme évidemment qui s'utilisera par exemple dans l'ordre de la psychanalyse, par exemple. Alors effectivement, on aborde une autre dimension qui est cette nostalgie, ce refus de la perte de l'objet, c'est une manière aussi d'utiliser très volontairement ce que les autres n'utilisent plus et rejettent, ce qui est évidemment une façon très évidente d'élever une critique en disant voilà ce monde, c'est à partir de ces déchets qu'il faut maintenant créer. Je pense que c'est une situation qui est éminemment contemporaine. Je pense que la société moderne a montré que c'est surtout à partir de tout ce qu'elle rejette qu'il faut recommencer à penser les choses et que la voie évidemment dans laquelle elle fonce, qui est celle de la destruction pure de tout, hein, de la pensée, de la nature, de, enfin, au sens écologique de tout ça. C'est là où il y a effectivement une façon où l'obsession de Schwitter, c'est extrêmement riche.
Alors, est-ce que le labyrinthe serait le mécanisme de la rotation de l'équerre ?
Le labyrinthe, c'est plus délicat parce que... Enfin, qui a inventé le labyrinthe ? Vous le savez comme moi. C'est-à-dire qu'il y a un inventeur au labyrinthe. Il n'y a pas de labyrinthe naturel. Le labyrinthe, il y a toujours quelqu'un qui l'a créé.
Il faut être deux, paraît-il.
Je dirais même il faut être trois.
Qui est le troisième ?
Mais probablement le miroir qui est dans le labyrinthe. Parce qu'il n'y a pas de labyrinthe sans miroir. Et c'est même, je dirais, l'essence du labyrinthe. Est-ce que vous êtes désorienté dans un labyrinthe, à proprement parler ? Pas dit. Vous savez que certaines espèces animales, je crois que c'est certains pigeons, je ne sais quoi, se repèrent avec des dipôles qui sont des espèces de petits composants magnétiques à l'intérieur du cerveau qui leur permettent de retrouver comme ça, de faire des migrations de 9, 10, 15 000 km, absolument sans se perdre. Et voilà des animaux qui ne sont pas égarés.
Est-ce qu'avec le Merzbow, Schwitter se ne renoue pas avec l'idée de grande œuvre ?
Chez Schwitter, quand il y a addition de médiums, ils sont toujours travaillés de la manière la plus autonome possible, chacun en soi. Le son est d'abord travaillé en tant que tel, la peinture, la couleur en tant que tel, parce qu'il y a une très grande réflexion chez lui sur les questions chromatiques aussi. Il a écrit plusieurs théories sur la question. Il ne faut pas oublier aussi que c'est l'époque de Itten, du Bauhaus, etc. Mais aussi sur le plan de l'architecture, sur le plan de la sculpture. C'est quelqu'un qui a travaillé d'abord chaque discipline en tant que telle avant de se permettre de les mêler et de les conjuguer. Donc c'est quelqu'un qui ne mettra, qui n'écrira sa phrase qu'après avoir réexaminé tout de fond en comble. C'est donc c'est l'œuvre d'art totale en tant que totalement opposée au concept wagnérien de l'œuvre d'art totale.
D'égarement.
C'est-à-dire que ce qu'il y a de beau, c'est que c'est une somme d'égarement, c'est-à-dire une somme de plongée au fond de la chose. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu peur de s'égarer, parce qu'au fond, comme un grand artiste, c'est quelqu'un qui, quand il cherche, quand il s'égare, il trouve. Donc c'est quelqu'un qui s'égare parce qu'il trouve au bout de son chemin la solution.
Олимпийские команды попадают атлеты, которые прошли конкурс на отборочных состязаниях.
Vous savez que Spinoza polissait des vers. On peut supposer qu'il pensait en même temps. Et est-ce que c'est pas étonnant de rencontrer quelqu'un comme Schwitter qui, lui, travaille penché sur des syllabes, des lettres, et non plus sur des mots?
Cette pratique de l'observation étonnée, admirative, amusée, intriguée, etc. Des éléments du mot, donc ou de la phrase, donc des morceaux de ponctuation ou des syllabes, d'une certaine façon est inscrite dans l'histoire de l'acquisition même de la langue. Je veux dire que c'est très proche des jeux d'enfants qui brusquement moi-même, je me souviens avoir fait l'expérience en me disant Georges Ulmer. Donc c'était un chanteur, je crois. Je répétais Georges Ulmer, Georges Ulmer, Georges Ulmer. Et progressivement, ça se démontait complètement. Il restait Georges Ulmer, et puis ça repartait de mer, etc. Donc c'est ce genre de choses que fait Schwitter. Par ailleurs, il s'amuse aussi à détruire les syntagmes en ne mettant pas les cas qu'il faut. Il y a le poème sur la Anas Bloom, par exemple, qui est assez connu, qui tend vers le petit nègre, mais qui n'est pas du petit nègre. Je, moi, t'aimer, etc., etc.
YX, VVU, TSRQ, PONM, LKIH, GFED, CB, A. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q, P, O, N, M, L, K, I, H, G, F, E, D, C, B.
Des espaces de dimensions infinies.
Eh bien, je crois qu'on commence d'abord par bien comprendre l'espace de dimension usuelle, c'est-à-dire 0, 1, 2 et 3. C'est pas tellement difficile parce qu'on a la géométrie standard comme outil. Et puis, on fait un petit effort, on va jusqu'à 4. Alors pour arriver à 4, il faut, comme on dit, spatialiser le temps. C'est une opération que Bergson a déclarée absolument odieuse condamnable. Mais au début, pour comprendre la 4 dimensions, il est bon de prendre 3 plus 1 et s'imaginer que le temps est quelque chose comme une quatrième dimension spatiale. Ça entraîne évidemment des choses un peu bizarres, comme par exemple le fait que ici j'ai, disons, une disquette dans cette boîte. Si je veux sortir la disquette de la boîte, je suis obligé d'ouvrir la boîte. Si j'avais la quatrième dimension à ma disposition, je pourrais envoyer ma main dans la quatrième dimension et aller pêcher la disquette sans ouvrir la boîte. Alors ça, peut-être que ça va vous égarer un peu, cette affirmation, mais c'est quelque chose de tout à fait banal. Quand on a une dimension de plus que celle de l'objet, alors il n'est pas réellement enfermé, on peut aller le pêcher dans la quatrième dimension.
Si j'ai bien compris, vous opposez logos et chaos.
Oui.
Mais est-ce que le chaos n'est pas dans le logos? Est-ce que justement pour maîtriser le logos, il ne faut pas aussi maîtriser le chaos?
Je ne vois pas en quoi. Moi, il me semble que quand on s'exprime rationnellement et paisiblement, ce qu'on dit a un sens. Et en général, les auditeurs, mes auditeurs, le perçoivent en tant que tel. C'est ça le logos. Tout ce qu'on a fait sur la théorie du chaos ces dernières années, bon, c'est scientifiquement très intéressant, mais on ne peut pas dire que ça ait énormément servi jusqu'à présent. Et dans la mesure où ça a servi, c'est parce qu'on a extrait du début d'une opération, disons comme la turbulence, n'est-ce pas, pour employer un exemple physique. Dans le phénomène de turbulence, on a au départ une dynamique simple, descriptible en termes courants, ou mathématiquement petits, et des expressions simples. Et puis tout d'un coup, ça se complique, il se rajoute des mouvements au mouvement initial, des mouvements plus rapides, plus compliqués topologiquement. Et finalement, au bout de quelques additions de ce genre, on a une dynamique qui devient pratiquement indescriptible, où toute la trajectoire s'entremêle sur elle-même et qu'on n'arrive plus à la suivre. Bon, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a quelque chose comme le chaos, si on peut bien se servir de ce terme. Mais le chaos est très difficile à maîtriser, en ce sens que pour faire une prédiction valable pour une dynamique un peu chaotique comme la météorologie, eh bien, pratiquement le coût du calcul nécessaire croît comme, je ne sais pas, le carré ou le cube de la prévision qu'on veut avoir. Alors, pour passer d'une prévision à 3 jours à une prévision à 5 jours en météorologie, il faut des ordinateurs déjà 100 fois ou 1000 fois plus coûteux. Et on est tout de suite arrêté par les possibilités du calcul. Alors, bon, ça c'est un chaos qui n'est au fond même pas... C'est ce que les techniciens appellent un chaos déterministe. Le chaos déterministe, c'est un chaos qui s'écrit, qui a des équations. Mais les équations ne permettent pas le calcul des futurs, le calcul de la position future du point. Ça coûte trop cher. C'est pas de l'égarement non plus. C'est des choses qui sont très embrouillées et qui néanmoins répondent à un ordre subtil et difficilement concevable. Alors, vous me direz, c'est de l'égarement, peut-être. Mais on peut être égaré sans ordre sous-jacent.
Et je pense au soldat Wittgenstein qui était sur le front de la Première Guerre mondiale, mm-hmm. avec dans sa poche quand même le manuscrit du Tractatus. Alors là, on a opposition le chaos qui était devant lui, et puis le logos dans la poche.
Oui, oui, oui. Mais on pourrait dire aussi que la situation militaire est en principe une situation simple. Du moins, je dirais en général, peut-être pas en plein combat, quand vous avez des obus ou des munitions diverses qui sautent de tous les côtés, bien sûr, ça n'est plus une situation très simple. Mais la situation de l'agone, c'est quand même quelque chose de typique, n'est-ce pas ? La lutte, le conflit entre deux puissances opposées, c'est une situation qui n'a rien de chaotique, c'est une situation hautement paradigmatique et qui est une source de compréhension et d'intelligibilité dont il faut savoir se servir.
Est-ce qu'il travaille un peu comme Schwitters, à ramasser une syllabe d'un côté, un ticket de métro de l'autre?
Bon, la leçon de Schwitters a été très importante au Brésil. Moi, je ne travaille pas avec des résidus, disons, d'objets, mais avec des résidus de mots, n'est-ce pas? Mon livre, mon bouquin Galaxie, que j'ai écrit pendant 13 ans, de 1963 à 1960. 16, c'est un livre où je travaille avec tous les côtés du langage verbal portugais, et même avec d'autres langues, en prenant des mots de différents niveaux, des mots de son culte, des mots argot, une zone tout à fait épiphanique du langage, et une zone anti-épiphanique, c'était vraiment les déchets, les garbage, n'est-ce pas, les résidus, tout ça.
Comment est-ce que vous comprenez une société qui soit sensible à cette notion-là de déchets ?
Pour nous, latino-américains, nous sommes toujours en face du déchet, n'est-ce pas ? Parce que nous vivons dans des sociétés injustes qui attendent une redistribution de la rente, une réforme profonde de la propriété agraire, n'est-ce pas ? Et comme ça n'est pas jusqu'à maintenant arrivé, pour le moment... On est toujours en face de la misère, du déchet, du garbage, n'est-ce pas ? À São Paulo comme à Rio, n'est-ce pas ?
De la décharge.
La décharge, oui, c'est ça. Et ça fait un peu, ça sert aussi une sorte de composant du baroque urbain brésilien actuel. Cette coexistence avec le luxe et les résidus, n'est-ce pas ? Entre le luxe et les résidus.
Vous ne trouvez pas que le Merzbow de Schwitters a quelque chose de la décharge, mais à l'état d'icône?
Ça peut être. Hein. Il y a là, c'est très curieux, parce que c'est une caverne, n'est-ce pas? Mais une caverne, ce n'est pas la caverne platonique, c'est une caverne, n'est-ce pas?
Pour reprendre cette image du triangle ouvert sur une base infinie, l'égarement n'est pas le chaos, c'est-à-dire que c'est pas l'absence totale de direction. C'est une direction, c'est un vecteur à l'envers, mais c'est une pointe à l'envers, mais elle a quand même un sens quelque part du côté du passé, fermée d'un côté, ouverte de l'autre. Il y a effectivement une invitation à la construction. Bon, la construction est dangereuse, parce que la construction peut toujours refermer précisément sur l'origine. Quelque part, il doit bien finir par y avoir des choses qui sont indécidables, dont on ne sait pas si elles sont anarchiques ou construites. Mais... De toute façon, ce genre de choses, quand on les rencontre, est toujours une invitation à tenter malgré tout d'écrire, de décrire, de mettre en scène, de peindre, etc., d'organiser.
Chez vous, l'intuition n'existe pas pour éviter l'égarement.
L'intuition peut se révéler insuffisante. Dans le cas que je vous ai expliqué de la descente d'un sommet, la source, ce qui est la source de l'égarement, c'est un facteur de simplicité. C'est le fait que le sommet est relativement plat. Et du fait qu'il est relativement plat, on y décèle mal les petits indices qui permettraient de prévoir la suite. La platitude est une source, peut-être, s'il y avait quelque chose qui est réellement source d'égarement, c'est la platitude, c'est-à-dire la constance. C'est une formule que j'aime beaucoup. La plus compliquée de toutes les fonctions en mathématiques, c'est la fonction nulle. Elle est une source d'égarement. La fonction qui est identiquement zéro. Vous savez, un graphe comme ça, tout plat. Ça c'est une source d'égarement. Tandis que la fonction générique, comme on dit, elle a des creux et des bosses. Et c'est la morphologie des creux et des bosses qui vous guide. D'un autre côté, il y a des procédés qui permettent au contraire d'exploiter la platitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle par exemple la transformation de Fourier. La transformation de Fourier est un outil qui permet d'utiliser à plein le caractère additif et linéaire de la fonction. Et on en tire des moyens, enfin ils sont probabilistes, n'est-ce pas? Les moyens probabilistes, ce ne sont pas des moyens du logos, à mon avis. C'est... La probabilité, c'est un logos d'aventurier, je dirais. Ce sont des gens qui, n'ayant pas les moyens de résoudre proprement le problème, ont recours à des procédés rapides et peu justifiés. Alors là, c'est, à mon avis, on sort de l'égarement pour entrer dans l'imposture, souvent.
Magnétique, l'égarement.
Let me inside you, into your room. I've heard it's lined
with the things you don't show. Quatrième partie, le chaos comme icône. Marc Dachy, Kurt Schwitters, René Thom, Jean-Pierre Lefebvre, Georges Aperguis, Araldo De Campos. Réalisation, Michel Mestre, Bernard Charon, Vincent Deck.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 14 janvier 1994.